RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour mon colonel. Je crois que ce matin nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Notamment peut-être d'ailleurs parmi les jeunes qui pourraient être intéressés par une carrière militaire ou etc. Et c'est une interrogation importante. Peut-on être catholique et militaire? Comment concilier ces deux éléments?
Bonjour mon colonel, bonjour Grégoire. Ah ben oui, la guerre est un mal nécessaire, je crois qu'on en convient tous. Pour maintenir, rétablir, sauvegarder la paix dans la cité. On s'est aperçu dans les propos que vous avez tenus et qui sont, je crois, imparables, que l'Église a eu un rôle magnifique pour moraliser la guerre, tant dans son déclenchement que dans sa conduite. Mais aujourd'hui, il faut quand même être réaliste, on n'est plus en chrétienté. Le christianisme a plus son mot à dire et quid des guerres modernes?
Effectivement, les guerres modernes peuvent semer des doutes. Des doutes quant aux intentions des dirigeants au moment de la déclencher. Avaient-ils une intention droite? Suivaient-ils une cause juste? A-t-on bombardé des populations en dépit des règles, en violation de toutes les règles de la guerre juste et même des droits humains? Et donc vous avez raison, les guerres récentes peuvent introduire un peu des soupçons sur la compatibilité entre ces deux États. Et pour l'étudier, je vous propose de revenir un peu en arrière, de voir comment étaient perçus les militaires au temps de la catholicité, voire au premier temps. Et ensuite de voir si les qualités que développent, qui sont attendues chez un militaire, sont toujours valables, toujours utiles, surtout pour la société. Et je pense pouvoir rassurer nos auditeurs sur ce point.
Donc vous pensez que c'est conciliable, vos propos? D'ailleurs, vous-même, mon colonel, je pense que vous êtes catholique. Et donc, vous pensez qu'on peut concilier, et vous en avez des preuves qu'on peut, que c'est conciliable?
Eh bien, je pense déjà qu'effectivement, en tant que catholique, il faut se poser la question, ce qui a été mon cas, et je vais m'appuyer quand même sur des bases solides. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, dit aux soldats « Abstenez-vous de toute violence inutile, et de toute fraude, et contentez-vous de votre solde. »
Et la solde,
oui. Il n'a jamais dit aux soldats de quitter leur état, contrairement aux riches.
Ouais. Oui, c'est vrai que la parabole du centurion, oui, tout à fait.
Le centurion qui a même été loué pour ses vertus, pour sa foi et pour ses qualités et l'obéissance qu'il obtenait de ses subordonnés.
Ah,
on peut également noter le nombre de saints parmi les militaires. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais Sainte Jeanne d'Arc, le roi Saint-Louis, chef militaire, Saint-Martin, Saint-Georges, Saint-Maurice, qui d'ailleurs ont pour la plupart été repris au sein des armées comme Saint-Patrons. Voilà donc. Je pense que d'emblée, on peut écarter cette notion de non-violence ou d'objection de conscience qui sont bien étrangères à la tradition catholique. Donc il faut d'abord rassurer nos auditeurs. Voilà, un catholique n'a pas à se promouvoir non-violent, même s'il recherche la paix. C'est ce que nous avions vu lors des émissions précédentes.
Ouais, très bien. Et alors, comme vous le disiez précédemment, ça veut dire que dans la fonction militaire, on peut témoigner, exercer de certaines vertus qui sont des vertus, qui seraient des vertus éternelles.
Alors non seulement il faut les exercer, il faut les pratiquer, mais il faut les apprendre et ce dès la première formation des militaires. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait assez naturellement. Alors, je tiens à préciser que ces vertus ne sont pas l'apanage des militaires, mais elles sont parfois, comment on dirait, exacerbé, porter un paroxysme, parce que derrière, on parle de vies humaines qui sont engagées. Donc l'état militaire, c'est bien une école de vertu, et ce, dès le temps de paix, parce qu'on parle beaucoup de la guerre dans cette émission, mais il faut bien savoir que les armées, le but d'une armée n'est pas que de faire la guerre, c'est d'être prêt à faire la guerre, mais si possible, de ne pas l'engager. Donc nous devons être prêts, dès le temps de paix, à conduire la guerre et donc avoir développé ses vertus. La première d'entre elles, qui vient forcément à l'esprit, c'est la discipline. C'est ce qui va caractériser les militaires. C'est ce qui était en tête de l'ancien règlement de discipline générale des armées, qui disait que la discipline fait la force principale des armées. Mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous prenez les drapeaux de régiments de l'armée, vous allez y voir des mots tels que l'honneur, la patrie, la fidélité, valeur, discipline, loyauté, le courage évidemment et l'héroïsme. Alors nous pourrions distinguer deux catégories, quelles sont les vertus pour les chefs et quelles sont les vertus pour les soldats. Bien évidemment, la plupart sont communes. Et je tiens à souligner que dans l'armée, on est chef dès les premiers grades. Un caporal est déjà chef de quelques soldats. Les valeurs que nous attendons d'un chef sont bien plus importantes que la qualité des matériels, je pense que vous en conviendrez. Et notamment leur esprit de décision, leur présence d'esprit, leur clairvoyance, parce que derrière, ils vont devoir prendre des décisions, assumer des responsabilités qui engagent des vies humaines. Un chef, on va attendre de lui d'être exemplaire, d'être compétent. Ce chef va être un entraîneur d'hommes, et bien souvent, les soldats vont se battre pour leur chef, pour leurs camarades, bien plus que pour leur pays.
C'est quelque chose qui m'a étonné dans les propos que nous tenions en aparté. Effectivement, je vous posais la question, comment se fait-il que même des gens qui ont rejoint et qui sont d'origine étrangère peuvent en arriver à se battre pour le pays? Vous me disiez qu'ils se battaient d'abord pour ce qui était proche d'eux, leur chef, et donc c'est la crédibilité du chef.
Je vous propose de nous retrouver pour répondre à cette nouvelle question après une courte pause. Donc, colonel, nous étions restés sur cette question. Comment des étrangers peuvent, au sein des forces armées, servir et se retrouver dans des notions, des valeurs comme la patrie, des choses comme ça?
Eh bien, parce qu'ils ont été éduqués à toutes ces valeurs de camaraderie, de discipline, qui font que ces valeurs universelles se retrouvent et permettent de forger une cohésion qui va faire qu'ils vont se battre sous la bannière de leur chef et mourir pour leur chef. Et je voudrais terminer ce petit paragraphe sur les vertus en vous faisant remarquer qu'aux Invalides, donc la cathédrale des militaires, se trouvent quatre statues au pied du dôme. Et ces quatre statues représentent les quatre vertus cardinales qui sont la force, la prudence, la justice et la tempérance. Eh bien, ces quatre vertus, évidemment, de tout bon catholique, eh bien, si elles sont aux Invalides, ce n'est pas anodin. C'est qu'un militaire doit également les faire siennes et doit les développer pour pouvoir mener une guerre juste, notamment dans le jus in bello, la conduite de la guerre.
Mais alors, un militaire catholique peut-il agir contre sa conscience?
Alors, faisons une différence. Il y a une différence entre agir contre sa conscience, et refuser de supporter ce qui nous apparaît comme un inconvénient. Voilà, on revient aux critères de jugement qui pourront être personnels en fonction de la gravité de la circonstance et de la pleine connaissance que nous avons des éléments qui ont concouru à déclencher une guerre. Je vous propose de le décliner en fonction des deux thèmes que nous avions vus dans l'émission précédente. Le jus ad bellum et le jus in bello.
Le jus ad bellum, le droit à engager la guerre. Hein,
tout à fait. Voilà. Autant les soldats doivent accepter de s'engager dans les opérations dont le bien fondé ne leur semblerait pas évident, parce qu'ils n'ont pas la pleine connaissance que doivent avoir les chefs, sauf bien évidemment s'il y a un viol grave de la justice. Mais on voit que bien souvent, nous n'avons qu'en pratique une infime partie des éléments qui nous permettent de juger objectivement des raisons qui ont motivé le déclenchement d'un conflit. Et donc, dans ce cas, le doute profite au chef. Et donc, le subordonné, lui, doit s'engager sans état d'âme et en faisant confiance à son chef. Cela ne veut pas dire qu'a posteriori, les historiens pourront décortiquer les éléments et convenir du bien fondé ou non de ce déclenchement. Mais ce n'est pas le rôle du soldat. Ce qui n'est pas le cas de Jus in Bello, la conduite de la guerre, où chaque soldat doit s'en remettre à sa morale pour conduire une guerre dans des conditions les plus justes possibles. Il est tout à fait loisible de savoir si je vais m'en prendre ou pas à la population civile. Je ne peux pas me défausser sur mon chef. Si je vais exercer des représailles aveugles, je ne pourrai pas me cacher derrière des ordres que j'aurais reçus. L'exécution de prisonniers, c'est la même chose. Voilà, je sais en tant que soldat si je suis en train de conduire une guerre morale et donc juste, ou si je suis en train de dévier. Et dans ce cas-là, si je sens que je dévie, eh bien, il faudra mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, en résumé, un soldat, pour agir en conformité avec sa conscience, devra toujours mettre en avant la charité. Voilà, l'ennemi, c'est un adversaire, mais ce n'est pas quelqu'un que je dois haïr. Je le traite, comme on avait dit à l'émission précédente, tel un médecin qui va couper un membre qui ne remplit plus ses fonctions. Et en tant que catholique, je vais également prier, bien sûr, prier pour mes chefs, pour qu'ils soient bien éclairés, prier pour mes subordonnés, prier pour ma famille, que je souhaite revoir à l'issue, mais prier également pour mes ennemis. Et là, j'ai quand même de très bons exemples durant notre histoire de France, et je vous citerai l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc qui faisait prier, se confesser, communier ses soldats avant les combats. Pourquoi ? Pour agir sans passion et sans haine, et surtout pour être prêt à mourir le cas échéant.
Je repense à l'exemple de ce chef vendéen aussi, qui, alors qu'ils avaient fait des prisonniers parmi les Bleus, et qui, au moment du...
Oui, Bonchamp.
A fait réciter le Notre Père, et du coup, tous les républicains ont été graciés et non exécutés. Hein.
Si vous me permettez un mot pour conclure ces trois émissions. Alors, un petit prodomo qui serait une citation de Saint Grégoire de Nazianze, père de l'Église, qui disait que si l'ordre sacerdotal est le plus saint de tous, l'ordre militaire est le plus excellent. Voilà, donc j'espère que cela...
Il avait de la famille militaire, celui-là, ou non ?
Peut-être des ascendants, à défaut de descendants. Et voilà, donc ma conclusion sera simple. Si vis pacem, para bellum. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et à défaut de la conduire, soyez prêts à la conduire. Et donc pour la conduire, il nous faut des chefs catholiques, il nous faut des soldats catholiques qui remplissent et qui mettent en pratique toutes ces belles vertus que l'Église nous enseigne au quotidien.